Le Grand Mône, troisième partie, chapitre 5, la partie de plaisir. Suivre Augustin sur la route du vieux Nançay. Il allait comme un coureur de bicyclette. Il ne descendait pas aux côtes. À son inexplicable hésitation de la veille avait succédé une fièvre, une nervosité, un désir d'arriver au plus vite, qui ne laissait pas de m'effrayer un peu. Chez mon oncle, il montra la même impatience. Il parut incapable de s'intéresser à rien jusqu'au moment où nous fûmes tous installés en voiture. Vers 10 heures, le lendemain matin, et prêt à partir pour les bords de la rivière. On était à la fin du mois d'août, au déclin de l'été. Déjà les fourreaux vides des châtaigniers jaunis commençaient à joncher les routes blanches. Le trajet n'était pas long. La ferme des Aubiers, près du Cher où nous allions, ne se trouvait guère qu'à 2 kilomètres au-delà des Sablonnières. De loin en loin, nous rencontrions d'autres invités en voiture, et même des jeunes gens à cheval que Florentin avait conviés audacieusement au nom de monsieur de Galais. On s'était efforcé, comme jadis, de mêler riches et pauvres, châtelains et paysans. C'est ainsi que nous vîmes arriver à bicyclette Jasmin de Louche, qui, grâce au garde baladier, avait fait naguère la connaissance de mon oncle. « Et voilà, » dit Mône en l'apercevant, « celui qui tenait la clé de tout pendant que nous cherchions jusqu'à Paris, c'est à désespérer. » Chaque fois qu'il le regardait, sa rancune en était augmentée. L'autre, qui s'imaginait au contraire avoir droit à toute notre reconnaissance, escorta notre voiture de très près, jusqu'au bout. On voyait qu'il avait fait misérablement, sans grand résultat, des frais de toilette, et les pans de sa jaquette élimée battaient le garde-crotte de son vélocipède. Malgré la contrainte qu'il s'imposait pour être aimable, sa figure vieillotte ne parvenait pas à plaire. Il m'inspirait plutôt à moi une vague pitié. Mais de qui n'aurais-je pas eu pitié durant cette journée-là? Je ne me rappelle jamais cette partie de plaisir sans un obscur regret, comme une sorte d'étouffement. Je m'étais fait de ce jour tant de joie à l'avance, tout paraissait si parfaitement concerté pour que nous soyons heureux, et nous l'avons été si peu. Que les bords du Cher étaient beaux pourtant. Sur la rive où l'on s'arrêta, le coteau venait finir en pente douce, et la terre se divisait en petits prés verts, en saulaies séparés par des clôtures, comme autant de jardins minuscules. De l'autre côté de la rivière, les bords étaient formés de collines grises, abruptes, rocheuses. Et sur les plus lointaines, on découvrait, parmi les sapins, de petits châteaux romantiques avec une tourelle. Au loin, par instant, on entendait aboyer la meute du château de Préverange. Nous étions arrivés en ce lieu par un dédale de petits chemins, tantôt hérissés de cailloux blancs, tantôt remplis de sable. Chemin qu'aux abords de la rivière, les sources vives transformaient en ruisseaux. Au passage, les branches des groseilliers sauvages nous agrippaient par la manche, et tantôt nous étions plongés dans la fraîche obscurité des fonds de ravins, tantôt au contraire, les haies interrompues, nous baignions dans la claire lumière de toute la vallée. Au loin, sur l'autre rive, quand nous approchâmes, un homme accroché au roc, d'un geste lent, tendait des cordes à poissons. Qu'il faisait beau, mon Dieu! Nous nous installâmes sur une pelouse, dans le retrait que formait un taillis de bouleaux. C'était une grande pelouse rase, où il semblait qu'il y eût place pour des jeux sans fin. Les voitures furent dételées, les chevaux conduits à la ferme des Aubiers. On commençait à déballer les provisions dans le bois et à dresser sur la prairie de petites tables pliantes que mon oncle avait apportées. Il fallut, à ce moment, des gens de bonne volonté pour aller à l'entrée du grand chemin voisin guetter les derniers arrivants et leur indiquer où nous étions. Je m'offris aussitôt. Maune me suivit, et nous allâmes nous poster près du pont suspendu, au carrefour de plusieurs sentiers et du chemin qui venait des Sablonnières. Marchant de long en large, parlant du passé, tâchant tant bien que mal de nous distraire, nous attendions. Il arriva encore une voiture du vieux Nançay, des paysans inconnus, avec une grande fille enrubannée. Puis, plus rien. Si, trois enfants dans une voiture à âne, les enfants de l'ancien jardinier des Sablonnières. « Il me semble que je les reconnais, » dit Maune. « Ce sont eux, je crois bien, qui m'ont pris par la main jadis, le premier soir de la fête, et m'ont conduite au dîner. » Mais à ce moment, l'âne ne voulant plus marcher, les enfants descendirent pour le piquer, le tirer, cogner sur lui tant qu'ils purent. Alors Maune, déçu, prétendit s'être trompé. Je leur demandai s'ils avaient rencontré sur la route monsieur et mademoiselle de Galais. L'un d'eux répondit qu'il ne savait pas. L'autre, « Je pense que oui, monsieur. » Et nous ne fûmes pas plus avancés. Ils descendirent enfin vers la pelouse, les uns tirant l'ânon par la bride, les autres poussant derrière la voiture. Nous reprîmes notre attente. Maune regardait fixement le détour du chemin des Sablonnières, guettant avec une sorte d'effroi la venue de la jeune fille qu'il avait tant cherchée jadis. Un énervement bizarre et presque comique qu'il passait sur Jasmin s'était emparé de lui. Du petit talus où nous étions grimpés pour voir au loin le chemin, nous apercevions sur la pelouse, en contrebas, un groupe d'invités où de louches essayaient de faire bonne figure. « Regarde le péroré, cet imbécile !» me disait Maune. Et je lui répondais « Mais laisse-le, il fait ce qu'il peut, le pauvre garçon !» Augustin ne désarmait pas. Là-bas, un lièvre ou un écureuil avait dû déboucher d'un fourré. Jasmin, pour assurer sa contenance, fit mine de le poursuivre. « Allons bon, il court maintenant !» fit Maune, comme si vraiment cette audace-là dépassait toutes les autres. Et cette fois, je ne pus m'empêcher de rire. Maune aussi, mais ce ne fut qu'un éclair. Après un nouveau quart d'heure, « Si elle ne venait pas, » dit-il. Je répondis, « Mais puisqu'elle a promis, sois donc plus patient. » Il recommença de guetter. Mais, à la fin, incapable de supporter plus longtemps cette attente intolérable, « Écoute-moi, » dit-il, « je redescends avec les autres. Je ne sais ce qu'il y a maintenant contre moi, mais si je reste là, je sens qu'elle ne viendra pas, qu'il est impossible qu'au bout de ce chemin, tout à l'heure, elle apparaisse. » Et il s'en alla vers la pelouse, me laissant tout seul. Je fis quelques 100 mètres sur la petite route pour passer le temps, et au premier détour, j'aperçus Yvonne de Galais, montée en Amazone sur son vieux cheval blanc, si fringant ce matin-là qu'elle était obligée de tirer sur les rênes pour l'empêcher de trotter. À la tête du cheval, péniblement, en silence, marchait monsieur de Galais. Sans doute, ils avaient dû se relayer sur la route, chacun à tour de rôle se servant de la vieille monture. Quand la jeune fille me vit tout seule, elle sourit, sauta prestement à terre, et, confiant les rênes à son père, se dirigea vers moi qui accourait. « Je suis bien heureuse, dit-elle, de vous trouver seule, car je ne veux montrer à personne qu'à vous le vieux Bélisaire, ni le maître avec les autres chevaux. Il est trop laid et trop vieux d'abord. Puis je crains toujours qu'il ne soit blessé par un autre. Or, je n'ose monter que lui, et quand il sera mort, je n'irai plus à cheval. » Chez mademoiselle de Galais, comme chez Maune, je sentais, sous cette animation charmante, sous cette grâce en apparence si paisible, de l'impatience et presque de l'anxiété. Elle parlait plus vite qu'à l'ordinaire. Malgré ses joues et ses pommettes roses, il y avait autour de ses yeux à son front, par endroits, une pâleur violente où se lisait tout son trouble. Nous convînmes d'attacher Bélisaire à un arbre dans un petit bois, proche de la route. Le vieux monsieur de Galais, sans mot dire comme toujours, sortit le licol des fontes et attacha la bête, un peu bas à ce qu'il me sembla. De la ferme, je promis d'envoyer tout à l'heure du foin, de l'avoine, de la paille. Et mademoiselle de Galais arriva sur la pelouse, comme jadis, je l'imagine. Elle descendit vers la berge du lac, lorsque Maun l'aperçut pour la première fois. Donnant le bras à son père, écartant de sa main gauche le pan du grand manteau léger qui l'enveloppait, elle s'avançait vers les invités, de son air à la fois si sérieux et si enfantin. Je marchais auprès d'elle. Tous les invités, éparpillés ou jouant au loin, s'étaient dressés et rassemblés pour l'accueillir. Il y eut un bref instant de silence, pendant lequel chacun la regarda s'approcher. Maun s'était mêlé au groupe des jeunes hommes, et rien ne pouvait le distinguer de ses compagnons, sinon sa haute taille. Encore y avait-il là des jeunes gens presque aussi grands que lui. Il ne fit rien qui pût le désigner à l'attention, pas un geste, ni un pas en avant. Je le voyais, vêtu de gris, immobile, regardant fixement, comme tous les autres, la si belle jeune fille qui venait. À la fin, pourtant, d'un mouvement inconscient et gêné, il avait passé sa main sur sa tête nue, comme pour cacher, au milieu de ses compagnons aux cheveux bien peignés, sa rude tête rasée de paysan. Puis le groupe entoura mademoiselle de Galais. On lui présenta les jeunes filles et les jeunes gens qu'elle ne connaissait pas. Le tour allait venir de mon compagnon. Et je me sentais aussi anxieux qu'il pouvait l'être. Je me disposais à faire moi-même cette présentation. Mais avant que j'eusse pu rien dire, la jeune fille s'avançait vers lui avec une décision et une gravité surprenantes. Je reconnais Augustin Maun, dit-elle, et elle lui tendit la main. Chapitre 6. La partie de plaisir. Fin. De nouveaux venus s'approchèrent presque aussitôt pour saluer Yvonne de Galais. Et les deux jeunes gens se trouvèrent séparés. Un malheureux hasard voulut qu'ils ne fussent point réunis pour le déjeuner à la même petite table. Mais Maun semblait avoir repris confiance et courage. À plusieurs reprises, comme je me trouvais isolé entre Delouche et Monsieur de Galais, je vis de loin mon compagnon qui me faisait de la main un signe d'amitié. C'est vers la fin de la soirée seulement, lorsque les jeux, la baignade, les conversations, les promenades en bateau dans les temps voisins se furent un peu partout organisées, que Maun, de nouveau, se trouva en présence de la jeune fille. Nous étions à causer avec Delouche, assis sur des chaises de jardin que nous avions apportées, lorsque, quittant délibérément un groupe de jeunes gens où elle paraissait s'ennuyer, mademoiselle de Galais s'approcha de nous. Elle nous demanda, je me rappelle, pourquoi nous ne canotions pas sur le lac des Aubiers comme les autres. Nous avions fait quelques tours cet après-midi, répondis-je, mais cela est bien monotone et nous avons été vite fatigués. Eh bien, pourquoi n'iriez-vous pas sur la rivière? Dit-elle. Le courant est trop fort, nous risquerions d'être emportés. Il nous faudrait, dit Maun, un canot à pétrole ou un bateau à vapeur, comme celui d'autrefois. « Nous ne l'avons plus, » dit-elle presque à voix basse. « Nous l'avons vendu. » Et il se fit un silence gêné. Jasmin en profita pour annoncer qu'il allait rejoindre Monsieur de Galais. « Je saurai bien, » dit-il, « où le trouver. » Bizarrerie du hasard. Ces deux êtres, si parfaitement dissemblable, s'était plu, et depuis le matin ne se quittait guère. Monsieur de Galais m'avait pris à part un instant au début de la soirée pour me dire que j'avais là un ami plein de tact, de déférence et de qualité. Peut-être même avait-il été jusqu'à lui confier le secret de l'existence de Bélisaire et le lieu de sa cachette. Je pensais moi aussi à m'éloigner, mais je sentais les deux jeunes gens si gênés, si anxieux l'un en face de l'autre, que je jugeais prudent de ne pas le faire. Tant de discrétion de la part de Jasmin, tant de précautions de la mienne, servirent à peu de chose. Ils parlèrent, mais invariablement, avec un entêtement dont ils ne se rendaient certainement pas compte, Mon en revenait à toutes les merveilles de jadis. Et chaque fois, la jeune fille, au supplice, devait lui répéter que tout était disparu. La vieille demeure, si étrange et si compliquée, abattue. Le grand étang, asséché, comblé. Et dispersé, les enfants aux charmants costumes. Ah ! Faisait simplement Mône avec désespoir. Et comme si chacune de ces disparitions lui eût donné raison contre la jeune fille ou contre moi. Nous marchions côte à côte. Vainement, j'essayais de faire diversion à la tristesse qui nous gagnait tous les trois. D'une question abrupte, Mône, de nouveau, cédait à son idée fixe. Il demandait des renseignements sur tout ce qu'il avait vu autrefois. Les petites filles, le conducteur de la vieille berline, les poneys de la course. Les poneys sont vendus aussi? Il n'y a plus de chevaux au domaine. Elle répondit qu'il n'y en avait plus. Elle ne parla pas de Bélisaire. Alors il évoqua les objets de sa chambre, les candélabres, la grande glace, le vieux luth brisé. Il s'enquérait de tout cela, avec une passion insolite, comme s'il eût voulu se persuader que rien ne subsistait de sa belle aventure, que la jeune fille ne lui rapporterait pas une épave capable de prouver qu'il n'avait pas rêvé tous les deux, comme le plongeur rapporte du fond de l'eau un caillou et des algues. Mademoiselle de Galais et moi, nous ne pûmes nous empêcher de sourire tristement. Elle se décida à lui expliquer. Vous ne reverrez pas le beau château que nous avions arrangé, monsieur de Galais et moi, pour le pauvre Franz. Nous passions notre vie à faire ce qu'il demandait. C'était un être si étrange, si charmant. Mais tout a disparu avec lui le soir de ses fiançailles manquées. Déjà, monsieur de Galais était ruiné sans que nous le sachions. Franz avait fait des dettes, et ses anciens camarades, apprenant sa disparition, ont aussitôt réclamé auprès de nous. Nous sommes devenus pauvres. Madame de Galais est morte, et nous avons perdu tous nos amis en quelques jours. Que Franz revienne s'il n'est pas mort, qu'il retrouve ses amis et sa fiancée, que la noce interrompue se fasse, et peut-être tout redeviendra-t-il comme c'était autrefois. Mais le passé peut-il renaître? Qui sait? Dit Mône pensif, et il ne demanda plus rien. Sur l'herbe courte et légèrement jaune déjà, nous marchions tous les trois sans bruit. Augustin avait à sa droite, près de lui, la jeune fille qu'il avait crue perdue pour toujours. Lorsqu'il posait une de ces dures questions, elle tournait vers lui lentement pour lui répondre, son charmant visage inquiet. Et une fois, en lui parlant, elle avait posé doucement sa main sur son bras, d'un geste plein de confiance et de faiblesse. Pourquoi le grand mot n'était-il là comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et que rien d'autre ne peut intéresser? Ce bonheur-là, 3 ans plus tôt, il n'eût pu le supporter sans effroi, sans folie peut-être. D'où venait donc ce vide, cet éloignement, cette impuissance à être heureux qu'il y avait en lui à cette heure? Nous approchions du petit bois où le matin M. de Galais avait attaché Bélisaire. Le soleil, vers son déclin, allongeait nos ombres sur l'herbe. À l'autre bout de la pelouse, nous entendions, assourdis par l'éloignement, comme un bourdonnement heureux, les voix des joueurs et des fillettes, et nous restions silencieux, dans ce calme admirable, lorsque nous entendîmes chanter de l'autre côté du bois, dans la direction des aubiers, la ferme du bord de l'eau. C'était la voix jeune et lointaine de quelqu'un qui mène ses bêtes à l'abreuvoir, un air rythmé comme un air de danse, mais que l'homme étirait et alanguissait comme une vieille ballade triste. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours, mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Mône avait levé la tête et écoutait. Ce n'était rien qu'un de ces airs que chantaient les paysans attardés au domaine sans nom le dernier soir de la fête, quand déjà tout s'était écroulé. Rien qu'un souvenir, le plus misérable, de ces beaux jours qui ne reviendraient plus. « Mais vous l'entendez ?» dit Mône à mi-voix. « Oh, je vais aller voir qui c'est !» Et tout de suite, il s'engagea dans le petit bois. Presque aussitôt, la voix se tut. On entendit encore une seconde l'homme siffler ses bêtes en s'éloignant, puis plus rien. Je regardais la jeune fille. Pensive et accablée, elle avait les yeux fixés sur le taillis où Mône venait de disparaître. Que de fois, plus tard, elle devait regarder ainsi, pensivement, le passage par où s'en irait à jamais le grand Mône. Elle se tourna vers moi. « Il n'est pas heureux, » dit-elle douloureusement. Elle ajouta « Et peut-être que je ne puis rien pour lui. » J'hésitais à répondre, craignant que Mône, qui devait d'un saut avoir gagné la ferme et qui maintenant revenait par le bois, ne surprît notre conversation. Mais j'allais l'encourager cependant, lui dire de ne pas craindre de brusquer le grand gars, qu'un secret sans doute le désespérait et que jamais de lui-même il ne se confierait à elle ni à personne. Lorsque soudain, de l'autre côté du bois, partit un cri, puis nous entendîmes un piétinement comme d'un cheval qui pétarade et le bruit d'une dispute à voix entrecoupée. Je compris tout de suite qu'il était arrivé un accident au vieux Bélisaire, et je courus vers l'endroit d'où venait tout le tapage. Mademoiselle de Galais me suivit de loin. Du fond de la pelouse, on avait dû remarquer notre mouvement, car j'entendis, au moment où j'entrais dans le taillis, les cris des gens qui accouraient. Le vieux Bélisaire, attaché trop bas, s'était pris une patte de devant dans sa longe. Il n'avait pas bougé jusqu'au moment où M. de Galais et de Louche, au cours de leur promenade, s'étaient approchés de lui. Effrayé, excité par l'avoine insolite qu'on lui avait donnée, il s'était débattu furieusement. Les deux hommes avaient essayé de le délivrer, mais si maladroitement qu'ils avaient réussi à l'empêtrer davantage, tout en risquant d'essuyer de dangereux coups de sabot. C'est à ce moment que, par hasard, Mône, revenant des aubiers, était tombé sur le groupe. Furieux de tant de gaucheries, il avait bousculé les deux hommes au risque de les envoyer rouler dans le buisson. Avec précaution, mais en un tour de main, il avait délivré Bélisaire. Trop tard, car le mal était déjà fait. Le cheval devait avoir un air foulé, quelque chose de brisé peut-être, car il se tenait piteusement la tête basse, sa selle à demi dessanglée sur le dos, une patte repliée sous son ventre et toute tremblante. Mône, penché, le tâtait et l'examinait sans rien dire. Lorsqu'il releva la tête, presque tout le monde était là, rassemblé, mais il ne vit personne. Il était fâché, rouge. « Je me demande, cria-t-il, qui a bien pu l'attacher de la sorte et lui laisser sa selle sur le dos toute la journée ? Et qui a eu l'audace de seller ce vieux cheval, bon tout au plus pour une carriole ?» Delouche voulut dire quelque chose, tout prendre sur lui. « Tais-toi donc, c'est ta faute encore, je t'ai vu tirer bêtement sur sa longe pour le dégager. » Et se baissant de nouveau, il se remit à frotter le jarret du cheval avec le plat de la main. Monsieur de Galais, qui n'avait rien dit encore, eut le tort de vouloir sortir de sa réserve. Il bégaya. « Les officiers de marine ont l'habitude, mon cheval. » « Ah, il est à vous, » dit Mône un peu calmé, très rouge, en tournant la tête de côté vers le vieillard. Je crus qu'il allait changer de ton, faire des excuses. Il souffla un instant, et je vis alors qu'il prenait un plaisir amer et désespéré à aggraver la situation, à tout briser à jamais, en disant avec insolence « Eh bien, je ne vous fais pas mon compliment. » Quelqu'un suggéra « Peut-être que de l'eau fraîche, en le baignant dans le gué. » « Il faut, » dit Mône sans répondre, « emmener tout de suite ce vieux cheval pendant qu'il peut encore marcher, et il n'y a pas de temps à perdre, le mettre à l'écurie et ne jamais plus l'en sortir. » Plusieurs jeunes gens s'offrirent aussitôt, mais Mademoiselle de Galais les remercia vivement. Le visage en feu, prête à fondre en larmes, elle dit au revoir à tout le monde, et même à Mône décontenancée, qui n'osa pas la regarder. Elle prit la bête par les rênes, comme on donne à quelqu'un la main, plutôt pour s'approcher d'elle davantage que pour la conduire. Le vent de cette fin d'été était si tiède sur le chemin des Sablonnières qu'on se serait cru au mois de mai, et les feuilles des haies tremblaient à la brise du sud. Nous la vîmes partir ainsi, son bras à demi sorti du manteau, tenant dans sa main étroite la grosse reine de cuir. Son père marchait péniblement à côté d'elle. Triste fin de soirée. Peu à peu, chacun ramassa ses paquets, ses couverts, on plia les chaises, on démonta les tables. Une à une, les voitures chargées de bagages et de gens partirent, avec des chapeaux levés et des mouchoirs agités. Les derniers, nous restâmes sur le terrain avec mon oncle Florentin, qui ruminait comme nous, sans rien dire, ses regrets et sa grosse déception. Nous aussi nous partîmes, emportés vivement dans notre voiture bien suspendue par notre beau cheval alezan. La roue grinça au tournant dans le sable, et bientôt, Mône et moi, qui étions assis sur le siège de derrière, nous vîmes disparaître sur la petite route l'entrée du chemin de traverse que le vieux Bélisaire et ses maîtres avaient pris. Mais alors, mon compagnon, l'être que je sache au monde le plus incapable de pleurer, tourna soudain vers moi son visage bouleversé par une irrésistible montée de larmes. « Arrêtez, voulez-vous » dit-il en mettant la main sur l'épaule de Florentin. « Ne vous occupez pas de moi, je reviendrai tout seul, à pied. » Et d'un bond, la main au garde-boue de la voiture, il sauta à terre. À notre stupéfaction, rebroussant chemin, il se prit à courir et courut jusqu'au petit chemin que nous venions de passer, le chemin des Sablonnières. Il dut arriver au domaine par cette allée de sapins qu'il avait suivie jadis, où il avait entendu, vagabond caché dans les basses branches, la conversation mystérieuse des beaux enfants inconnus. Et c'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demanda en mariage Mademoiselle de Galais. Chapitre 7. Le jour des noces. C'est un jeudi, au commencement de février, un beau jeudi soir, glacé, où le grand vent souffle. Il est 3h30, 4h. Sur les haies, auprès des bourgs, les lessives sont étendues depuis midi et sèchent à la bourrasque. Dans chaque maison, le feu de la salle à manger fait luire tout un reposoir de joujoux vernis. Fatigué de jouer, l'enfant s'est assis auprès de sa mère, et il lui fait raconter la journée de son mariage. Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier, et il entendra, jusqu'au soir, siffler et gémir les naufrages. Il n'a qu'à s'en aller dehors sur la route, et le vent lui rabattra son foulard sur la bouche comme un chaud baiser soudain qui le fera pleurer. Mais pour celui qui aime le bonheur, il y a, au bord d'un chemin boueux, la maison des Sablonnières, où mon ami Maune est rentré avec Yvonne de Galais, qui est sa femme depuis midi. Les fiançailles ont duré 5 mois. Elles ont été paisibles, aussi paisibles que la première entrevue avait été mouvementée. Maune est venu très souvent aux Sablonnières, à bicyclette ou en voiture. Plus de 2 fois par semaine, cousant ou lisant près de la fenêtre qui donne sur la lande et les sapins, Mademoiselle de Galais a vu tout d'un coup sa haute silhouette rapide passer derrière le rideau, car il vient toujours par l'allée détournée qu'il a prise autrefois. Mais c'est la seule allusion, tacite, qu'il fasse au passé. Le bonheur semble avoir endormi son étrange tourment. De petits événements ont fait date pendant ces 5 calmes mois. On m'a nommé instituteur au hameau de Saint-Benoît-des-Champs. Saint-Benoît n'est pas un village, ce sont des fermes disséminées à travers la campagne, et la maison d'école est complètement isolée sur une côte au bord de la route. Je mène une vie bien solitaire. Mais, en passant par les champs, il ne faut que 3 quarts d'heure de marche pour gagner les Sablonnières. Delouche est maintenant chez son oncle, qui est entrepreneur de maçonnerie au Vieux Nançay. Ce sera bientôt lui le patron. Il vient souvent me voir. Maune, sur la prière de Mademoiselle de Galais, est maintenant très aimable avec lui. Et ceci explique comment nous sommes là, tous deux, à rôder, vers 4 heures de l'après-midi, alors que les gens de la noce sont déjà tous repartis. Le mariage s'est fait à midi, avec le plus de silence possible, dans l'ancienne chapelle des Sablonnières, qu'on n'a pas abattue et que les sapins cachent à moitié sur le versant de la côte prochaine. Après un déjeuner rapide, la mère de Maune, M. Serel et Milly, Florentin et les autres, sont remontés en voiture. Il n'est resté que Jasmin et moi. Nous irons à la lisière des bois qui sont derrière la maison des Sablonnières, au bord du grand terrain en friche, emplacement ancien du domaine aujourd'hui abattu. Sans vouloir l'avouer, et sans savoir pourquoi, nous sommes remplis d'inquiétude. En vain nous essayons de distraire nos pensées et de tromper notre angoisse en nous montrant, au cours de notre promenade errante, les bauges des lièvres et les petits sillons de sable où les lapins ont gratté fraîchement, un col étendu, la trace d'un braconnier. Mais sans cesse, nous revenons à ce bord du taillis d'où l'on découvre la maison, silencieuse et fermée. Au bas de la grande croisée qui donne sur les sapins, il y a un balcon de bois, envahi par les herbes folles que couche le vent. Une lueur, comme d'un feu allumé, se reflète sur les carreaux de la fenêtre. De temps à autre, une ombre passe. Tout autour, dans les champs environnants, dans le potager, dans la seule ferme qui reste des anciennes dépendances, silence et solitude. Les métayers sont partis au bourg pour fêter le bonheur de leur maître. De temps à autre, le vent, chargé d'une buée qui est presque de la pluie, nous mouille la figure et nous apporte la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Je m'arrête un instant pour écouter en silence. C'est d'abord comme une voix tremblante qui, de très loin, ose à peine chanter sa joie. C'est comme le rire d'une petite fille qui, dans sa chambre, a été chercher tous ses jouets et les répand devant son ami. Je pense aussi à la joie craintive encore d'une femme qui a été mettre une belle robe et qui vient la montrer et ne sait pas si elle plaira. Cet air que je ne connais pas, c'est aussi une prière, une supplication au bonheur de ne pas être trop cruel, un salut et comme un agenouillement devant le bonheur. Je pense. Ils sont heureux enfin, Maud est là-bas près d'elle. Et savoir cela, en être sûr, suffit au contentement parfait du brave enfant que je suis. À ce moment, tout absorbé, le visage mouillé par le vent de la plaine comme par l'embrun de la mer, je sens qu'on me touche l'épaule. « Écoute !» dit Jasmin tout bas. Je le regarde, il me fait signe de ne pas bouger, et lui-même, la tête inclinée, le sourcil froncé, il écoute. Chapitre 8. L'appel de Franz. Cette fois, j'ai entendu. C'est un signal, un appel sur deux notes, hautes et basses, que j'ai déjà entendu jadis. Ah, je me souviens, c'est le cri du grand comédien lorsqu'il hélait son jeune compagnon à la grille de l'école. C'est l'appel à quoi Franz nous avait fait jurer de nous rendre, n'importe où et n'importe quand. Mais que demande-t-il ici, aujourd'hui, celui-là? Cela vient de la grande sapinière à gauche, dis-je à mi-voix. C'est un braconnier, sans doute. Jasmin secoue la tête. Tu sais bien que non, dit-il. Puis plus bas. Ils sont dans le pays, tous les deux, depuis ce matin. J'ai surpris Ganache à 11 heures en train de guetter dans un champ auprès de la chapelle. Il a détalé en m'apercevant. Ils sont venus de loin, peut-être à bicyclette, car il était couvert de boue jusqu'au milieu du dos. Mais que cherche-t-il? Je n'en sais rien, mais à coup sûr, il faut que nous les chassions. Il ne faut pas les laisser rôder aux alentours, ou bien toutes les folies vont recommencer. Je suis de cet avis, sans l'avouer. Le mieux, dis-je, serait de les joindre, de voir ce qu'ils veulent et de leur faire entendre raison. Lentement, silencieusement, nous nous glissons donc en nous baissant à travers le taillis jusqu'à la grande sapinière, d'où part, à intervalles réguliers, ce cri prolongé qui n'est pas en soi plus triste qu'autre chose, mais qui nous semble à tous les deux de sinistre augure. Il est difficile, dans cette partie du bois de sapin où le regard s'enfonce entre les troncs régulièrement plantés, de surprendre quelqu'un et de s'avancer sans être vu. Nous n'essayons même pas. Je me poste à l'angle du bois. Jasmin va se placer à l'angle opposé, de façon à commander, comme moi, de l'extérieur, deux des côtés du rectangle, et à ne pas laisser fuir l'un des bohémiens sans le héler. Ces dispositions prises, je commence à jouer mon rôle d'éclaireur pacifique, et j'appelle. « Franz !» « Franz, ne craignez rien, c'est moi, Sorel. Je voudrais vous parler. » Un instant de silence. Je vais me décider à crier encore, lorsque, au cœur même de la sapinière, où mon regard n'atteint pas tout à fait, une voix commande. « Restez où vous êtes, il va venir vous trouver. » Peu à peu, entre les grands sapins que l'éloignement fait paraître serrés, je distingue la silhouette du jeune homme qui s'approche. Il paraît couvert de boue et mal vêtu. Des épingles de bicyclette serrent le bas de son pantalon, une vieille casquette à ancre est plaquée sur ses cheveux trop longs. Je vois maintenant sa figure amaigrie. Il semble avoir pleuré. S'approchant de moi, résolument, « Que voulez-vous » demande-t-il d'un air très insolent. « Et vous-même, Franz, que faites-vous ici ? Pourquoi venez-vous troubler ceux qui sont heureux? Qu'avez-vous à demander? Dites-le. » Ainsi interrogé directement, il rougit un peu. Balbutie répond seulement « Je suis malheureux, moi, je suis malheureux. » Puis, la tête dans le bras, appuyé à un tronc d'arbre, il se prend à sangloter amèrement. Nous avons fait quelques pas dans la sapinière. L'endroit est parfaitement silencieux. Pas même la voix du vent que les grands sapins de la lisière arrêtent. Entre les troncs réguliers, se répète et s'éteint le bruit des sanglots étouffés du jeune homme. J'attendis que cette crise s'apaise et je dis, en lui mettant la main sur l'épaule, « Franz, vous viendrez avec moi. Je vous mènerai auprès d'eux. Ils vous accueilleront comme un enfant perdu qu'on a retrouvé. Et tout sera fini. » Mais il ne voulait rien entendre. D'une voix assourdie par les larmes, malheureux, entêté, colère, il reprenait. « Ainsi, Maud ne s'occupe plus de moi. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Pourquoi ne tient-il pas sa promesse ?»«
Voyons, Franz, répondis-je,
le temps des fantasmagories et des enfantillages est passé. Ne troublez pas avec des folies le bonheur de ceux que vous aimez, de votre sœur et d'Augustin Mohn. Mais lui seul peut me sauver, vous le savez bien. Lui seul est capable de retrouver la trace que je cherche. Voilà bientôt 3 ans que Ganache et moi nous battons toute la France sans résultat. Je n'avais plus confiance qu'en votre ami, et voici qu'il ne répond plus. Il a trouvé son amour, lui. Pourquoi maintenant ne pense-t-il pas à moi? Il faut qu'il se mette en route. Yvonne le laissera bien partir, elle ne m'a jamais rien refusé. » Il me montrait un visage où, dans la poussière et la boue, les larmes avaient tracé des sillons sales. Un visage de vieux gamin épuisé et battu. Ses yeux étaient cernés de taches de rousseur, son menton mal rasé, ses cheveux trop longs traînaient sur son col sale. Les mains dans les poches, il grelottait. Ce n'était plus ce royal enfant en guenille des années passées. De cœur, sans doute, il était plus enfant que jamais. Impérieux, fantasque et tout de suite désespéré. Mais cet enfantillage était pénible à supporter chez ce garçon déjà légèrement vieilli. Naguère, il y avait en lui tant d'orgueilleuse jeunesse que toute folie au monde lui paraissait permise. À présent, on était d'abord tenté de le plaindre pour n'avoir pas réussi sa vie. Puis, de lui reprocher ce rôle absurde de jeune héros romantique où je le voyais s'entêter. Et enfin, je pensais, malgré moi, que notre beau Franz aux belles amours avait dû se mettre à voler pour vivre, tout comme son compagnon Ganache. Tant d'orgueil avait abouti à cela. « Si je vous promets, dis-je enfin après avoir réfléchi, que dans quelques jours, Mohn se mettra en campagne pour vous, rien que pour vous. « Il réussira, n'est-ce pas? Vous en êtes sûr ? » me demanda-t-il en claquant des dents. « Je le pense, tout devient possible avec lui. « Mais comment le saurais-je? Qui me le dira ?»« Vous reviendrez ici, dans 1 an exactement, à cette même heure. Vous trouverez la jeune fille que vous aimez. » Et en disant ceci, je pensais non pas troubler les nouveaux époux, mais m'enquérir auprès de la tante Moinelle et faire diligence moi-même pour trouver la jeune fille. Le bohémien me regardait dans les yeux, avec une volonté de confiance vraiment admirable. 15 ans. Il avait encore et tout de même 15 ans. L'âge que nous avions à Sainte-Agathe, le soir du balayage des classes, quand nous fîmes tous les trois ce terrible serment enfantin. Le désespoir le reprit lorsqu'il fut obligé de dire « Eh bien, nous allons partir. » Il regarda, certainement avec un grand serrement de cœur, tous ces bois d'alentour qu'il allait de nouveau quitter. « Nous serons dans 3 jours, dit-il, sur les routes d'Allemagne. Nous avons laissé nos voitures au loin. » Et depuis 30 heures, nous marchions sans arrêt. Nous pensions arriver à temps pour emmener Mohn avant le mariage et chercher avec lui ma fiancée, comme il a cherché le domaine des Sablonnières. Puis, repris par sa terrible puérilité, « Appelez votre Delouche, dit-il en s'en allant, parce que si je le rencontrais, ce serait affreux. » Peu à peu, entre les sapins, je vis disparaître sa silhouette grise. J'appelai Jasmin et nous allâmes reprendre notre faction. Mais presque aussitôt, nous aperçûmes, là-bas,
Augustin, qui fermait les volets de la maison, et nous fûmes frappés par l'étrangeté de son allure. Chapitre 9. Les gens heureux. Plus tard, j'ai su par le menu détail tout ce qui s'était passé là-bas. Dans le salon des Sablonnières, dès le début de l'après-midi, Maune et sa femme, que j'appelle encore Mademoiselle de Galais, sont restées complètement seules. Tous les invités partis, le vieux monsieur de Galais a ouvert la porte, laissant une seconde le grand vent pénétrer dans la maison et gémir. Puis il s'est dirigé vers le vieux Nancet et ne reviendra qu'à l'heure du dîner pour fermer tout à clé et donner des ordres à la métairie. Aucun bruit du dehors n'arrive plus maintenant jusqu'aux jeunes gens. Il y a tout juste une branche de rosier sans feuilles qui cogne la vitre du côté de la lande. Comme deux passagers dans un bateau à la dérive, ils sont, dans le grand vent d'hiver, deux amants enfermés avec le bonheur. Le feu menace de s'éteindre, dit Mademoiselle de Galais, et elle voulut prendre une bûche dans le coffre. Mais Maune se précipita et plaça lui-même le bois dans le feu. Puis il prit la main tendue de la jeune fille, et ils restèrent là, debout, l'un devant l'autre, étouffés comme par une grande nouvelle qui ne pouvait pas se dire. Le vent roulait avec le bruit d'une rivière débordée. De temps à autre, une goutte d'eau, diagonalement, comme sur la portière d'un train, rayait la vitre. Alors la jeune fille s'échappa. Elle ouvrit la porte du couloir et disparut avec un sourire mystérieux. Un instant, dans la demi-obscurité, Augustin resta seul. Le tic-tac d'une petite pendule faisait penser à la salle à manger de Sainte-Agathe. Il songea sans doute « C'est donc ici la maison tant cherchée, le couloir jadis plein de chuchotements et de passages étranges. » C'est à ce moment qu'il dut entendre, Mademoiselle de Galais me dit plus tard l'avoir entendu aussi, le premier cri de Franz tout près de la maison. La jeune femme, alors, eut beau lui montrer les choses merveilleuses dont elle était chargée, ses jouets de petite fille, toutes ses photographies d'enfants, elle en cantinière, elle et Franz sur les genoux de leur mère, qui était si jolie, puis tout ce qui restait de ses sages petites robes de jadis, jusqu'à celle-ci que je portais, voyez, vers le temps où vous alliez bientôt me connaître, où vous arriviez, je crois, au cours de Sainte-Agathe. Maune ne voyait plus rien et n'entendait plus rien. Un instant pourtant, il parut ressaisi par la pensée de son extraordinaire, inimaginable bonheur. « Vous êtes là, » dit-il sourdement, comme si le dire seulement donnait le vertige. « Vous passez auprès de la table et votre main s'y pose un instant. » Et encore. Ma mère, lorsqu'elle était jeune femme, penchait ainsi légèrement son buste sur sa taille pour me parler. Et quand elle se mettait au piano, alors Mademoiselle de Galais proposa de jouer avant que la nuit ne vînt. Mais il faisait sombre dans ce coin du salon, et l'on fut obligé d'allumer une bougie. L'abat-jour rose, sur le visage de la jeune fille, augmentait ce rouge dont elle était marquée aux pommettes, et qui était le signe d'une grande anxiété. Là-bas, à la lisière du bois, je commençais d'entendre cette chanson tremblante que nous apportait le vent, coupé bientôt par le second cri des deux fous qui s'étaient rapprochés de nous dans les sapins. Longtemps, Maune écouta la jeune fille, en regardant silencieusement par une fenêtre. Plusieurs fois, il se tourna vers le doux visage plein de faiblesse et d'angoisse. Puis il s'approcha d'Yvonne et, très légèrement, il mit sa main sur son épaule. Elle sentit doucement peser auprès de son cou cette caresse à laquelle il aurait fallu savoir répondre. Le jour tombe, dit-il enfin. Je vais fermer les volets, mais ne cessez pas de jouer. Que se passa-t-il alors dans ce cœur obscur et sauvage? Je me le suis souvent demandé, et je ne l'ai su que lorsqu'il fut trop tard. Remords ignorés, regrets inexplicables, peur de voir s'évanouir bientôt entre ses mains ce bonheur inouï qu'il tenait si serré. Et alors, tentation terrible de jeter irrémédiablement à terre tout de suite cette merveille qu'il avait conquise. Il sortit lentement, silencieusement, après avoir regardé sa jeune femme une fois encore. Nous le vîmes, de la lisière du bois, fermer d'abord avec hésitation un volet, puis regarder vaguement envers nous, en fermer un autre, et soudain s'enfuir à toutes jambes dans notre direction. Il arriva près de nous avant que nous eussions pu songer à nous dissimuler davantage. Il nous aperçut, comme il allait franchir une petite haie récemment plantée et qui formait la limite d'un pré. Il fit un écart. Je me rappelle son allure hagarde, son air de bête traquée. Il fit mine de revenir sur ses pas pour franchir la haie du côté du petit ruisseau. Je l'appelai. « Mon Augustin !» Mais il ne tournait pas même la tête. Alors, persuadé que cela seulement pourrait le retenir, « Franz est là » criai-je. « Arrête !» Il s'arrêta enfin, haletant, et sans me laisser le temps de préparer ce que je pourrais dire. « Il est là ? » dit-il. « Que réclame-t-il ? » « Il est malheureux, répondis-je. Il venait te demander de l'aide pour retrouver ce qu'il a perdu. »« Ah ! » fit-il, baissant la tête. « Je m'en doutais bien. J'avais beau essayer d'endormir cette pensée-là. Mais où est-il ? Raconte vite !» Je dis que Franz venait de partir et que certainement on ne le rejoindrait plus maintenant. Ce fut pour Maud une grande déception. Il hésita, fit deux ou trois pas, s'arrêta. Il paraissait au comble de l'indécision et du chagrin. Je lui racontai ce que j'avais promis en son nom au jeune homme. Je dis que je lui avais donné rendez-vous dans un an à la même place. Augustin, si calme en général, était maintenant dans un état de nervosité et d'impatience extraordinaire. « Ah ! Pourquoi avoir fait cela ? » dit-il. « Mais oui, sans doute, je puis le sauver. Mais il faut que ce soit tout de suite !» Il faut que je le voie, que je lui parle, qu'il me pardonne et que je répare tout. Autrement, je ne peux plus me présenter là-bas. » Et il se tourna vers la maison des Sablonnières. « Ainsi, dis-je, pour une promesse enfantine que tu lui as faite, tu es en train de détruire ton bonheur. »« Ah, si ce n'était que cette promesse, » fit-il. Et ainsi, je connus qu'autre chose liait les deux jeunes hommes, mais sans pouvoir deviner quoi. En tout cas, dis-je, il n'est plus temps de courir, ils sont maintenant en route pour l'Allemagne. Il allait répondre lorsqu'une figure échevelée, hagarde, se dressa entre nous. C'était Mademoiselle de Galais. Elle avait dû courir, car elle avait le visage baigné de sueur. Elle avait dû tomber et se blesser, car elle avait le front écorché au-dessus de l'œil droit, et du sang figé dans les cheveux. Il m'est arrivé, dans les quartiers pauvres de Paris, de voir soudain, descendu dans la rue, séparé par des agents intervenus dans la bataille, un ménage qu'on croyait heureux, uni, honnête. Le scandale a éclaté tout d'un coup, n'importe quand, à l'instant de se mettre à table, le dimanche avant de sortir, au moment de souhaiter la fête du petit garçon. Et maintenant, tout est oublié, saccagé. L'homme et la femme, au milieu du tumulte, ne sont plus que deux démons pitoyables, et les enfants en larmes se jettent contre eux, les embrassent étroitement, les supplient de se taire et de ne plus se battre. Mademoiselle de Galais, quand elle arriva près de Maud, me fit penser à un de ces enfants-là, à un de ces pauvres enfants affolés. Je crois que tous ses amis, tout un village, tout un monde l'eût regardée, qu'elle fût accourue tout de même, qu'elle fût tombée de la même façon, échevelée, pleurante, salie. Mais quand elle eut compris que Maud n'était bien là, que cette fois du moins il ne l'abandonnerait pas, alors elle passa son bras sous le sien. Puis elle ne put s'empêcher de rire au milieu de ses larmes, comme un petit enfant. Ils ne dirent rien, ni l'un ni l'autre. Mais comme elle avait tiré son mouchoir, Maud le lui prit doucement des mains. Avec précaution et application, il essuya le sang qui tachait la chevelure de la jeune fille. « Il faut rentrer maintenant, » dit-il. Et je les laissai retourner tous les deux, dans le beau grand vent du soir d'hiver qui leur fouettait le visage. Lui, l'aidant de la main au passage difficile, elle, souriante et se hâtant vers leur demeure pour un instant abandonnée.